19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Il fait beau, il fait chaud sur le plateau de Face à l'Info, n'est-ce pas?
Oui.
Torride.
C'est vous le soleil.
Oh, ah. Vous serez payé plus cher.
Merci.
J'en parlerai à la direction. Mathieu Devez, comment allez-vous ce soir?
Très bien, merci.
Alors, on commence par la Courneuve?
Exactement. À la une, donc, une marche blanche organisée cet après-midi à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Plusieurs centaines de personnes présentes lors de ce rassemblement à l'initiative de la famille de Wanis. Le cortège est arrivé à Aubervilliers sur les lieux du drame où ce jeune de 18 ans est mort la semaine dernière après un refus d'obtempérer. Un réseau national de fraude au code de la route a été démantelé dans les Bouches-du-Rhône. Plus de 1000 candidats l'auraient obtenu. Contre quelques centaines d'euros et sans passer l'épreuve, bien sûr, au total 19 personnes ont été arrêtées. 4 d'entre elles soupçonnées d'être les organisateurs seront jugées le 12 avril. Enfin, c'est peut-être une solution à la pénurie chronique de dons d'organes. Des chirurgiens américains ont transplanté un rein de porc sur un patient vivant. Le patient est âgé de 62 ans et souffrait d'insuffisance rénale chronique. Et une semaine après l'opération, il est en bonne santé.
Merci mon cher Mathieu. Et au sommaire ce soir, 53% des Français se disent favorables à l'emploi de statistiques ethniques dans la lutte contre la criminalité. Sujet plutôt tabou en France puisque ces statistiques sont interdites aujourd'hui. Qu'est-ce que ce débat révèle des mutations profondes de la société française? Est-ce que ces chiffres permettraient d'en finir avec la dissimulation du réel? En a-t-on réellement besoin finalement? L'éditorial de Mathieu Bock-Côté. Alors que dès le départ d'Emmanuel Macron de Marseille, les points de deal ont été reconstitués dans le quartier de la Castellane, alors que le président de la République diffusait des photos de lui en tant que boxeur, nous allons nous arrêter ce soir sur la part de communication dans la politique. N'est-elle pas devenue un moyen de diversion permanente? L'analyse de Guillaume Bigot. Alors, Kaya Nakamura est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Nous nous arrêterons sur la journée internationale de la langue française qui avait lieu hier. Où en sommes-nous de notre langue aujourd'hui? À la Commission européenne, au JO, en France, dans le monde, saccage ou détricotage? Le regard de Marc Menant. Deux semaines après l'audition des magistrats au Sénat sur le narcotrafic en France, des magistrats qui ont eu des mots très durs pour décrire la réalité des faits de leur quotidien, on apprend que Éric Dupond-Moretti a sermonné ces magistrats. « Je n'aime pas les discours de défaitisme », s'agace le garde des Sceaux. Il leur est reproché d'avoir présenté un tableau trop sombre de la lutte contre le trafic de drogue. Est-ce la chasse contre le réel, contre la vérité? La vérité doit-elle disparaître? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis nous nous arrêterons dans deux pays pour analyser leur méthode face à l'immigration. La Suède, où une députée très favorable à l'accueil des réfugiés déclare maintenant avoir changé d'avis et tient même à s'en excuser. Nous nous sommes fondamentalement trompés sur la question de l'immigration. Et puis nous passerons également par l'Italie avec Giorgia Meloni, qui, contrairement à ce qui était annoncé jusque-là, a réussi à faire baisser les derniers chiffres de l'immigration de 70%. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti.
De faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien.
De rien. Alors ce soir, ça sera une dédicace spéciale pour Marc Menant puisqu'il va parler de la langue française, la journée de la langue française qui avait lieu hier. Donc on va vous laisser à la parole dans un instant sur ce sujet. Vous allez parler d'Ayana Kamoura, j'imagine.
Oui, un petit mot.
juste comme ça.
Alors, une majorité de Français favorables aux statistiques ethniques. La France devrait-elle faire usage de ces statistiques ? L'idée n'est pas considérée favorablement par les médias, mais trouve de plus en plus de partisans, Mathieu Bock-Côté. Ils sont 53% à les souhaiter désormais, selon un sondage CSA pour CNews. En quoi ce débat révèle-t-il les mutations profondes de la société française ?
Alors, je note que 53%, c'est une majorité, mais ce n'est pas une majorité écrasante. Premier élément. Donc, ça témoigne, je pense, des ambiguïtés. Cette majorité réelle, mais qui n'est pas une majorité écrasante, ça témoigne des points d'interrogation qui sont nombreux dans l'esprit du commun des mortels quand vient le temps de parler des statistiques ethniques, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Les statistiques ethniques, on peut dire oui, non, mais au final, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Parce que ça, les termes, en fait, en ces matières, sont infiniment, cachent beaucoup de complexité. Le premier élément, pourquoi, cela dit, c'est une majorité. On peut croire qu'une majorité de Français se réclament des statistiques, souhaitent les statistiques ethniques sur le mode coup de pression. C'est-à-dire cesser de nous cacher la réalité. Nous savons que les mots ne recouvrent plus la réalité des choses. Nous savons notamment, et je reviendrai, que le concept, la référence à la nationalité ne nous dit plus suffisamment de choses sur le parcours des uns des autres. Quand je lisais il y a quelques jours que des islamistes belges voulaient faire sauter la tour Eiffel, encore une fois les Belges. Donc là, on comprend que le mot belge
ici... Je ne sais pas pourquoi tout le monde sourit.
Fait pas, ben exactement, c'est le problème. Tout comme, vous savez, le commun est mortel a appris depuis longtemps à décoder la novlangue. Donc quand, par exemple, le vocabulaire ordinaire a intégré le mot « les Suédois » pour parler de certains problèmes d'insécurité, qu'est-ce qu'on entendait par là? C'était une manière de dire ce qu'on n'avait pas le droit de dire en le disant autrement. Donc le commun des mortels a acté déjà de l'incapacité d'un certain universalisme républicain à décrire la réalité française. On critique en fait l'effet de distorsion juridique de la référence exclusive à la nationalité. Quand, après le Bataclan, j'en ai souvent parlé ici, mais moi, ça m'a toujours obsédé, on se dit, comment se fait-il que des jeunes Français aient tiré sur d'autres Français? C'est que c'était pas exactement... C'était pas des jeunes Français qui tiraient sur d'autres Français. C'était des gens qui avaient peut-être des papiers d'identité en tant que Français, mais qui ne se vivaient pas comme Français, qui n'avaient pas la culture française, et chez qui l'écart entre la nationalité administrative et la nationalité existentielle ou identitaire était telle que c'était de véritables Français de papier dans les circonstances. On reproche à l'État, avec raison, de chercher à cacher la réalité des temps présents. On pourrait avoir comme point de repère Cologne en 2015-2016, rappelez-vous, quand l'État comprend qu'avec les vagues de migrants qui arrivent, on est devant des agressions qui sont commises pour l'essentiel par des migrants, et l'État retient les infos pour ne pas exciter les peurs supposées d'une population qu'on accuse de xénophobie. Donc l'État se dit « je ne peux pas laisser circuler de telles informations, qu'en ferait cette plèbe haineuse que nous devons gouverner ?» Quand on entend aussi sur un autre registre, au moment du débat sur l'immigration, la Cour des comptes qui refuse de donner des informations, qui les donne après le débat, le commun des mortels se dit « mais qu'est-ce qu'on nous cache ?» Donc, et là, on n'est pas sur la question des statistiques ethniques, mais on est sur ce sentiment très vif et confirmé à de nombreuses reprises que l'État décide en fait de retenir les infos. Donc là, on dit « on va mettre un peu de pression et les statistiques ethniques, c'est une manière d'envoyer le signal. Donnez-nous les réalités que vous voulez cacher. Réalités qu'on cache quelquefois, qui est à produire des fake news. C'est pas pour rien que Kevin et Mathéo sont apparus aussi rapidement dans le langage ordinaire pour parler des émeutiers d'aujourd'hui et de demain. Le commun des mortels s'est approprié ces deux mots et lorsqu'on dit il y a plusieurs Kevin et Mathéo, tout le monde comprend ce qui se dit. Tout le monde comprend qu'on n'a pas le droit de nommer une réalité et qu'on est obligé de faire cette blague quasi-soviétique pour avoir le droit de nommer ce qu'on a dans le pays. Il y a le coup de pression, donc, et il y a aussi, je crois, un aveu. Un aveu dans la population, c'est-à-dire nous savons que nous sommes rendus là. On préférerait, la France, une conscience nationale républicaine très forte. Mais le fait est qu'on constate que cette conscience ne correspond plus à la réalité des choses en bien des lieux. Qu'est-ce que j'entends par là? Mais le fait ethno-racial, et je le dis sans m'en réjouir, je le précise, hein, mais le fait ethno-racial est aujourd'hui implanté en France, comme partout en Occident, et on constate que chez plusieurs des populations issues de l'immigration, la conscience ethno-raciale, ou religieuse même quelquefois, est plus forte que la conscience nationale française. Ce qui fait que bien des Français de vieille origine, en eux-mêmes, en viennent à se dire « bon ben, quelle est ma part d'identité ethno-raciale ?» Ce qui fait qu'on a vu le terme « blanc » réapparaître pendant longtemps, alors que ce n'était pas un terme qui était très courant dans le vocabulaire politique français. Les Français ne se vivaient pas comme blancs en tant que tels. De ce point de vue, à la rigueur, la conscience raciale est beaucoup plus forte dans le monde anglo-saxon. Mais là, quand on a aujourd'hui des gens qui se disent « en tant que racisé ci, en tant que racisé ça », eh bien, le peuple historique français en vient à se demander « mais nous, qui sommes-nous ?» Donc, le fait ethno-racial est en train de transformer nos sociétés, qu'on le veuille ou non, et ça nous force quelquefois à le mentionner. Et il ne l'a pas transformé par pure pression idéologique. L'idéologie a joué un rôle. Mais quand vous avez tout à la fois l'immigration massive, plus l'effondrement des systèmes d'intégration, plus un différentiel culturel très élevé entre le pays d'origine, quelquefois la civilisation d'origine, et la France, eh bien, inévitablement, la conscience civilisationnelle, ethno-raciale, religieuse, appelez ça comme vous souhaitez, tend à prendre plus de place que la conscience nationale. Alors, on a tout ça devant nous. Donc, le commun des mortels, lorsqu'il dit donner les statistiques ethniques, il ne dit pas « je les souhaite ardemment ». Il dit « pourrions-nous au moins nommer ce qu'on a devant les yeux ? Est-ce qu'on pourrait simplement caractériser ce qu'on a devant soi ? Parce que sinon, quand on cherche à le caractériser, on peut se retrouver devant les tribunaux. Rappelez-vous, il y a un éditorialiste qui est devenu un homme politique qui, pour avoir osé quelques observations sur le lien de délinquance de certains groupes et délinquance et certains groupes culturels particuliers, s'est retrouvé devant les tribunaux pour ça. On peut se retrouver dans les tribunaux si on fait quelques observations statistiques, soit liées par des statistiques qui existent du langage de l'État, ou tout simplement qui relève du sens commun. Donc on se dit, bon, au moins, est-ce qu'on pourrait au moins dire les choses, nommer ce qu'on voit, clarifier ce qu'on voit? Ces statistiques nous permettraient en fait de nommer une réalité et de cesser de multiplier les contorsions dans la nouvelle langue pour dire ce que nous vivons. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'argument derrière ce 53%, je crois.
Pour que ça puisse être indiscutable. Alors, pourquoi certains, finalement, s'opposent à ces statistiques? Est-ce qu'il n'y a pas de bonne raison de s'en méfier?
Ah, mais il y en a de très bonnes. Et c'est pour ça que là-dessus, je dis que le 53% est aussi l'aveu d'une perplexité. Parce que, bon, sur le coup, on se dit statistiques ethno-raciales ou raciales. C'est plutôt simple. Il y a les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, les Arabes, les Latinos. Donc, c'est quoi exactement les catégories? Mais là, c'est déjà assez compliqué en tant que tel, parce que ces catégories-là, très rapidement, on se rend compte qu'elles sont en bonne partie construites administrativement, et elles sont construites politiquement, juridiquement, et là, lesquelles catégories utiliser? Je vais vous donner un exemple, mais vraiment très personnel. Au Canada, il y a l'origine ethnique est mentionnée. L'origine ethnique qui est la mienne dans le recensement canadien, mon origine... Ah non, mais je suis d'origine ethnique française.
Non.
Donc, la norme, le français chez nous, je pourrais aussi déclarer origine ethnique canadienne si je le souhaitais. Mais ça, c'est vraiment les constructions administratives de l'État canadien. Mais l'origine ethnique, donc chez nous, dans le vocabulaire des statistiques ethniques canadiennes, français est une identité ethnique d'origine. Donc, vous comprenez que c'est d'un pays. Alors, si on disait aux Français, vous savez, le français est une identité ethnique, ça peut provoquer quelquefois une réaction assez surprenante. Donc, premier élément, selon le pays où vous vous trouvez, la référence aux identités ethniques est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Les catégories même ne vont pas de soi. Asiatique. On sait que c'est une catégorie souvent utilisée. Mais là, je vais passer un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps. Je vais faire mon argument OSS 117. Hein? C'est quoi la formule? C'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale? Les Japonais. Ah, chou blanc. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que vous avez, si on est en Occident, la catégorie asiatique. OK, on voit à peu près ce que ça veut dire. Mais entre les Japonais, les Coréens, les Chinois, et parmi les Chinois, différents groupes ethniques, là, vous
les
avez...
Les Thaïlandais ou les Polynésiens. Ben,
alors là, vous créez une illusion de continuité qui n'est pas particulièrement conforme à la réalité. Le mot, la statistique ethnique, plutôt que la statistique nationale, dans de telles circonstances, est trompeuse. Un asiatique, c'est très vague. Un noir, le terme noir... Entre le malgache, entre l'haïtien, entre le noir américain, et là, faites la liste de tous les pays.
Le séchélois, le Martinique.
Et là, donc, vous créez une unité qui n'existe pas. Et en plus, si vous vous intéressez un peu aux communautés d'origine de ces gens dans leur pays d'origine, mais vous constatez que l'origine ethnique entre groupes du même groupe racial vu de loin peuvent être assez contrastées, hein, entre groupes noirs, entre guillemets, voire des différences ethniques très, très fortes. Et derrière ça, le mot noir qui crée un effet d'homogénéité, mais nous, est un mot menteur parce qu'il vient abolir des appartenances ethniques tribales qui sont quelquefois beaucoup plus fortes. De même, le mot blanc. Dans le mot blanc, bah oui, c'est un blanc. Mais entre les Russes et les Ukrainiens, en ce moment, vous croyez que le mot blanc a un effet révélateur, nous dit quelque chose? Ou dans ce cas-là, l'identité nationale n'est pas plus forte que l'identité raciale? Alors, on va nous dire quelquefois, oui, le mot ethnie, c'est entre la race et la nation. J'entends l'argument, mais on voit que c'est compliqué, surtout que ces catégories-là sont souvent produites administratives. Aux États-Unis, les Browns. Mais les Browns, c'est les Latinos. D'accord. Mais chez les Latinos, vous n'avez pas exactement la même chose chez les Mexicains, chez les Péruviens, chez les Salvadoriens. En ce moment, les Salvadoriens, on s'y intéresse beaucoup. C'est pas exactement... Si vous parlez de la criminalité Brown, ça veut rien dire. Si vous parlez de la criminalité salvadorienne, c'est pas la même chose que la criminalité dite péruvienne. Et les Français, et je parlais de mon origine ethnique française reconnue par l'État canadien, mais qu'est-ce qu'on fait en France ici? Est-ce que la catégorie français d'origine française a un sens? J'ai rien contre si on veut l'utiliser, mais ça va être compliqué pour les Outre-mer. Donc, je fais toutes ces nuances-là, pas pour faire le petit malin qui dit ha 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 ha, regardez, tout est compliqué, j'ai compris la complexité des choses. Je dis que c'est difficile d'intégrer de telles statistiques dans la technique de l'État. J'ajoute une chose, dès lors que vous avez de telles catégories, vous avez la tentation très vive et très rapide de créer, d'enfermer les gens dans leur catégorie ethnique. Donc, vous êtes un échantillon représentatif d'un groupe davantage qu'un individu. Et au-delà de ça, eh bien, il y a la tentation ensuite de distribuer les gens en voulant qu'ils soient représentatifs. Donc, dans ce groupe, est-ce qu'il y a assez de Noirs? Est-ce qu'il y a assez d'Asiatiques? Est-ce qu'il y a assez de Blancs? Est-ce qu'il y a assez... Et là, ça devient compliqué. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, il y a toutes ces subdivisions ethniques de tel coin d'Afrique, de tel coin d'Amérique centrale, de tel coin d'Amérique du Sud. Et vous croyez avoir simplifié les choses alors que vous les avez complexifiées, dis-je, considérablement.
Alors finalement, utile ou nuisible?
Je dirais inévitable, indispensable et malheureusement inévitable et indispensable. Parce qu'après avoir fait toutes ces nuances qui ne me semblent pas inutiles, au final, qu'est-ce qu'on voit? Le parti du déni est tellement fort en France aujourd'hui. Le parti du déni qui explique qu'il n'y a pas de basculement démographique. Pas du tout. Ça ne veut rien dire. Le peuple historique ne devient pas minoritaire chez lui. Bon, là, on a beau entendre ça, on a beau entendre les arguments des uns et des autres, et on a quelquefois un fait massif. L'immigration change la composition de la population et ça change de peuple. On le sait. Donc là, mais le déni est tel que si vous osez le mentionner, on peut présenter ça comme un propos haineux. Est-ce qu'il est possible de mentionner la réalité des choses? Sur la question de délinquance et immigration, on le sait, il y a des choses, des réalités qu'on ne peut pas mentionner, qui sont filtrées, en fait, qui filtrent ici et là dans le langage des policiers, dans le langage des forces de l'ordre, mais on ne peut pas le mentionner publiquement. Est-ce que tout simplement pour la clarté des choses, ça ne serait pas utile d'une manière ou de l'autre, simplement pour savoir où nous en sommes? Le succès relatif dans l'intégration des différents groupes culturels, c'est une chose, c'est une variable intéressante à savoir. Donc, en ayant tout ça à l'esprit, je dirais que surtout, ce sera un gain dans la description du réel, malgré toutes les nuances que j'ai faites, et ce sera aussi un gain en matière de liberté d'expression. Si jamais un éditorialiste qui se lance en politique dit tel groupe est surreprésenté dans telle délinquance, on ne dira pas c'est bien ou c'est mal. On va dire c'est vrai ou c'est faux. Et si c'est faux, ben on dira vous êtes un mauvais analyste. Si c'est vrai, on dira qu'est-ce qu'on fait devant ça.
Merci beaucoup pour votre analyse et votre regard de sociologue, important sur ces questions. J'ai une petite affiche à vous montrer, mais pas tout de suite. J'hésite parce que personne ne parle de cette affiche. Je ne sais pas si je la montre maintenant, plus tard, j'en sais rien. Je vous fais attendre un petit peu parce que franchement, c'est une affiche qui m'a plutôt... J'ai été surprise par cette affiche. Oui, on me fait dire l'oreillette qu'on l'a. On l'a, mais on la garde. On va la montrer tout à l'heure. Guillaume Bigot. Oui, on va ménager ses effets. En plus, j'ai envie que Charlotte réagisse sur cette affiche. On va parler un peu du chef de l'État avec vous, mon cher Guillaume, puisqu'alors que, après le départ d'Emmanuel Macron de Marseille, tout de suite, les points de deal ont été reconstitués dans le quartier de Castellane. On a vu hier ces diffusions des photos du président de la République en tant que boxeur. Les questions qu'on va se demander aujourd'hui, est-ce que, quelle est l'importance de la communication dans la vie du politique aujourd'hui? Est-ce que ça aide la politique? Est-ce que ça plombe la politique? Est-ce que ça remplace la politique?
Vaste, vaste sujet. Il faut commencer par un point. Prenons Marseille et par un personnage, prenons le chef de l'État. Là, typiquement, il y a une intention de communication très forte, c'est-à-dire de se rendre à Marseille, ce qu'il a fait mardi, je crois, et il n'a pas été n'importe où. Il a été à la Castellane, qui est supposée être la cité la plus gangrénée par le trafic de stupéfiants, la plus dure. Et il n'a pas été seul, il a été avec Gérald Darmanin, avec tout un aéropage. Et quelle était l'intention, en fait? Son intention, c'est de dire, communication, il n'y a pas de territoire perdu de la République. L'État, c'est moi, après tout. C'est vrai, sous la Ve République, hein, il incarne l'État. Donc, j'y vais et je serai bien accueilli. Voilà. Ensuite, il y a l'idée aussi de, je pense, de mettre en scène cette opération, les opérations Place Nette. Et là, il y avait même une adaptation, si j'ose dire, à la bonne dimension pour Marseille, hein, Marseille en grand. Donc là, c'est Place Nette en grand, c'est Place Nette XXL. Voilà. Et montrer, en lançant l'opération Place Nette XXL, que ça allait fonctionner. Pourquoi ? Parce que, on le sait, on l'avait évoqué, Charlotte notamment, il y a quatre magistrats qui se sont exprimés devant une commission parlementaire. Ils ont dit à Marseille notamment, en général, l'État français est en train de perdre la guerre contre les narcotrafiquants. Donc il y avait besoin de réagir, donc de communiquer. Ensuite, on est en pleine campagne européenne et on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de ses adversaires qui disent que le bilan en matière de régalien, comme on dit, en particulier de lutte contre le trafic de stupéfiants, n'est guère brillant. Et donc, il y a cette intention de faire une démonstration de force, en fait, en se rendant à Marseille. Le résultat, qu'est-ce que c'est ? Trop de com, tue la com. C'est une séquence un peu Potemkin à l'arrivée. On a un mauvais épisode de Plus belle la vie. D'abord, cette visite soi-disant surprise, bien sûr qu'elle était sécurisée, bien sûr qu'elle était préparée. Et puis, on a surtout le réel qui déborde du cadre. Bien sûr, il y a du soleil, les gens étaient souriants, etc. Mais enfin, on entend quand même des choses incroyables. Des jeunes qui interpellent le président de la République, calmez vos petits CRS. On entend quelqu'un qui interpelle le président de la République, un jeune homme qui lui dit « Oui, mais attention, à Gaza, il faut changer de politique, sinon ça va déborder dans les cités. » Avec une espèce de chantage comme ça. Et on sait que le président de la République, il adore reprendre la balle au bon, il adore mettre les points sur les i, avoir raison, etc. Bah là, il passe son tour quand même. Hein. Il regarde un peu la pointe de ses souliers et il avance. Donc, et le pire se produit surtout après la visite. Et qui montre en fait que cette démonstration de force, c'est tout sauf une démonstration de force. C'est à la fin une démonstration de faiblesse. Hein. Parce que sitôt le chat parti, si j'ose dire, les souris se remettent à danser. Vous l'avez dit, il y a toutes sortes d'individus pas très recommandables qui se sont exprimés. Ouais, on va retourner au charbon. Charbon dans le jargon, c'est-à-dire qu'ils vont et leur point de deal. Depuis les prisons, certains ont dit, oh, de toute façon, cette opération et puis rien, c'est pareil. Au point que le préfet qui vient d'être installé sur place, Pierre-Édouard Collier, a dû tenir une conférence de presse pour expliquer qu'il n'y a pas de retour des points de deal. Alors pourquoi le dire si c'est le cas ? Et en fait, surtout, le bilan, si on fait le bilan de cette opération XXL dans toutes les Bouches-du-Rhône, avec 900 policiers, 900 gendarmes mobilisés, on a quoi à l'arrivée ? On a 120 personnes interpellées, mais surtout, 8 kilos de cannabis. 8 kilos de cannabis, l'estimation, c'est 500 tonnes par an qui rentrent en France. Voilà. On a 300 grammes de coke. L'estimation, c'est 150 tonnes par an. Bah, heureusement que c'était une opération XXL, sinon on aurait peut-être eu un micron ou un microgramme, ou peut-être une feuille de résine de cannabis qui aurait été trouvée, je ne sais pas. Donc le bilan est très très modeste, c'est moins qu'on puisse dire, et en termes de communication, c'est catastrophique.
Alors j'aime bien parce que vous, il y a une photo qui vous a fait bondir. En termes de communication, on en a un peu parlé hier, on va en parler dans un instant, puisque pour vous, il y aurait peut-être un lien entre la diffusion de cette photo d'Emmanuel Macron en train de boxer le lendemain de cet échec, on va dire, du déplacement du chef de l'État à Marseille. On marque une pause, on revient dans un instant pour en parler avec Guillaume Bigot. Retour sur le plateau de Face à l'info dans un instant avec Marc Menon. On parlera de la langue française. Hier, c'était la journée de la langue française avec Charlotte Dornelas. Charlotte était en colère ce matin. Non, mais vous étiez en colère. Si, quand elle a vu les propos contre Éric Dupond-Moretti et ses propos lorsqu'il a repris les magistrats, et on va en parler tout à l'heure, c'est très intéressant. On va essayer de comprendre pourquoi dans un instant. Et avec vous, déjà, Mathieu, pour terminer.
Plus, il énerve, Charlotte.
Non, mais parce que les magistrats, vous rappelez, sur le narcotrafic, ils avaient dit des réalités. Et Éric Dupond-Moretti a taclé, si vous permettez l'expression, ces magistrats. Et voilà, ça ne l'a pas mis en de bonne humeur. On parlera avec vous, Mathieu, de deux exemples de l'immigration, à la fois Giorgia Meloni, personne n'en parle, baisse de 70% l'immigration, et aussi une députée suédoise qui dit tiens, avant j'étais pour l'immigration, pour faire simple, maintenant je suis pour, excusez-moi. C'est bien clair, c'est contre les. Non, c'est ça. Mais voilà, voilà.
On avait compris.
On a compris. D'abord, et dans un instant, je vous montre une petite image. Vous l'avez deviné sur les réseaux sociaux, vous êtes complètement indomptable sur les réseaux sociaux. Mais je vais montrer une petite affiche dans un instant. Guillaume Bigot, vous, ce qui vous a énervé, c'est le lendemain de la visite un peu ratée du président de la République qui a publié donc sur les réseaux sociaux ces photos, des photos de lui en train de boxer. Est-ce que pour vous, c'est un hasard ?
Non, c'est pas tellement que ça m'a énervé. Je suis simplement fait la réflexion qu'il y avait un télescopage de communication, pour rester sur le thème de la communication. Et que c'était quand même curieux, et que exactement comme le déplacement à Marseille devait être une preuve de force et finalement une démonstration de faiblesse, hein, là, la publication de cette photo, je me dis, c'est la même chose. Parce que ça a l'air de ne rien avoir à faire, en fait, finalement. Le président qui boxe et le président qui déambule à la Castellane, ça n'a aucun rapport. Mais moi, je crois que ces deux images, elles essayent, ces deux séquences, comme disent les communicants, essayent de dire la même chose, d'apporter la même démonstration. C'est-à-dire qu'on a un président fort, on a un président musclé, on a un président combatif, on a un président qui lâche rien, il est déterminé, il est infatigable, et il va y arriver. Et je pense que dans les deux cas, ça débouche sur le message inverse. Alors, on en a parlé pour Marseille. Là, pour le cas de la boxe, c'est ma lecture, évidemment, très personnelle. Peut-être pense-t-il que ça le met en valeur. C'est comme l'équivalent des statues équestres pour Louis XIV. Moi, je ne crois pas. Je vois plutôt un homme seul, qui est en transpiration, enfin, qui fait un effort, voilà, qui frappe dans un sac, disons. Est-ce qu'il est combatif? Est-ce qu'il est agressif? C'est une question de sensibilité personnelle, disons. Est-ce qu'il est infatigable? Est-ce qu'il est au bout du rouleau? Là aussi, je vous laisse avoir la réponse par vous-même. Est-ce qu'il est déterminé? Ou est-ce que c'est un homme extrêmement frustré par le réel et donc a besoin de se défouler? C'est presque le seul pouvoir qu'il a, c'est taper dans un sac. Et finalement, sa politique s'est tapée dans le vide depuis 2017. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'en tout cas, cette image, elle est presque inquiétante. Et ça me rappelle une lecture que j'ai faite, ça s'appelle « Les 100 jours de Ludovic Vigogne ». Et il cite Madame Macron, Brigitte Macron, qui dit « Il me fait peur ». S'agissant de son mari, pourquoi il me fait peur? Ils étaient à la lanterne, c'était avant le deuxième tour, et il passe son temps à boxer au point où ça fait peur à son épouse, et il se fait même mal à la main. Donc moi, mon interprétation, elle est subjective, c'est que ça ne donne pas du tout une impression de puissance, de sérénité, de solidité. Je pense que c'est plutôt raté. Alors, ce n'est que mon interprétation subjective, et oui, je ne suis pas le plus grand macroniste devant l'éternel, disons.
Ah bon?
Oui, je pense.
Je ne vois pas.
J'essaie de le cacher. Mais, et heureusement d'ailleurs, pour l'achat.
Chacun son avis.
Bien sûr. Mais je ne suis pas, disons, je suis pas convaincu par le président depuis le départ. Mais là, je pense que je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que si on regarde sur les réseaux notamment, ça a quand même suscite, je ne parle pas des opposants politiques, c'est normal, ils font leur métier, mais c'est le rejet, l'agacement, l'incompréhension, voire l'hilarité. Et je ne suis pas sûr qu'en publiant ces photos, le but, c'était de déclencher un fou rire, vous voyez.
Non, moi, je trouve virilité. Moi, je trouve cette photo très virile. Ça, c'est chacun son avis.
Vous savez qu'il y a de plus en plus de femmes qui font de la boxe, donc ce n'est pas spécialement la virilité.
Non, mais là, lui, moi, je
j'aimerais pas avoir ses bras, quand même.
Moi, j'aimerais bien avoir ses bras, moi.
Enfin, ah, non. Ouais, ah non, vous êtes plus comme ça.
Non, mais bon, moi, je trouve que c'est musclé.
Vous seriez moins sexy.
Ça fait un peu... On est toujours en train de dire que le masculin, il disparaît, la virilité. Ben voilà, un peu de virilité. Je ferme la parenthèse. Toute cette communication présidentielle, ne me regardez pas comme ça. Il y a Mathieu Bocoté qui se dit, elle déraille complètement Christine Kelly ce soir. Toute cette communication, dernière question présidentielle au fond, c'est pour convaincre, pour faire diversion. Les Français se sont-ils habitués?
Alors, incontestablement, ils se sont habitués. C'est sûr et certain. Je crois que l'idée qu'il y aurait, c'était ce que vous avez vendu le président Macron en 2017, c'est-à-dire qu'il y aurait une parole maîtrisée, il y aurait une parole rare, il y aurait une communication jupitérienne qui contrastait d'ailleurs avec le président trop normal ou qui contrastait avec l'omniprésident trop effervescent, c'est terminé. Hein, après, très vite d'ailleurs, après la fête de la musique, après les selfies gênants, après McFly, Carlito, etc. Je pense que la désacralisation de la fonction présidentielle... À côté, François Hollande, c'était Richelieu, quoi. De la même façon, les provocations verbales qui viennent me chercher, certains foutent rien, ils sont même rien, je vais les emmerder, etc. À côté, le président Sarkozy, c'est quelqu'un qui était totalement dans le self-control, maître de lui. Je pense que jamais aucun président n'avait autant parlé, et ça fait penser à Raymond Devos, d'ailleurs, autant parlé aussi longtemps, et surtout pour ne rien dire, et même quand il n'avait rien à dire. Et ça ne l'a pas empêché de parler extrêmement longtemps. Et donc je crois que les Français sont habitués. Ils sont habitués à toutes ces manies, ce côté mise en scène dans des tentes militaires, devant des tentes militaires, pardon, au moment du Covid, sur le porte-avions, en tenue d'aviateur, en bras de chemise, une bière à la main, comme un personnage de série. Ils se sont habitués à tous les gadgets. C'est-à-dire le grand débat, la convention citoyenne, la réunion de Saint-Denis, les expressions assez pompeuses et creuses aussi d'ailleurs, millésime français, grammaire d'action, réarmement, les volte-face, ne nous étendons pas, baisse des dépenses d'armement, doublement des dépenses d'armement, fin des centrales nucléaires, on réouvre des centrales nucléaires, OTAN mort cérébrale, plus OTAN que l'OTAN, quoi qu'il en coûte, on réduit la dette, etc. Tout ça, les Français sont habitués. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est la véritable saturation de l'espace médiatique. C'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire qu'il faut augmenter constamment du point de vue du président de la République. On a l'impression qu'il est accro. Il faut augmenter la dose de communication médiatique. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a passé, à mon avis, très largement le seuil de l'indifférence, peut-être atteint vers 2022, là, au moment de la réélection, où on a perdu, on le voit dans les audiences des émissions, etc., où on a perdu l'habitude de s'intéresser à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Mais là, on est à un autre stade, à mon avis, de l'irritation. Et surtout, ce que je trouve inquiétant, pour répondre à votre question, c'est qu'on pourrait imaginer qu'il y a une forme de stratégie de diversion, en effet. Mais peut-être le plus inquiétant, c'est qu'il y a une volonté de convaincre à toute force. C'est-à-dire de reprendre constamment la parole, de ne jamais lâcher le micro, un peu comme on le voit sur ces images de boxe, ce que mes enfants appelleraient un forceur. Voilà, c'est un forceur. Il faut absolument convaincre les gens, même s'ils ne sont pas d'accord. Et ça, je trouve que c'est un peu... Le personnage devient un peu inquiétant. Mais ce n'est que mon avis de citoyen.
Qui a envie de réagir là-dessus, Marc ?
Ben oui, c'est-à-dire...
Ne montre pas vos muscles. Hein.
Non, mais moi, forcément, quelqu'un qui fait du sport, ça m'agrée. Mais il n'en reste pas moins que c'est pas l'image d'un président, même si on avait le président Sarkozy qui faisait son petit footing. Là, il y a une sorte de surexposition, c'est-à-dire que ce besoin d'essayer de démontrer qu'on n'est pas inactif, que la situation générale nous met dans une sorte d'ensablement, eh bien non, on ne se laissera pas bloquer, on ne se laissera pas embourber, on agit toujours.
D'accord. Je vais vous montrer. Merci pour votre regard. Je vais vous montrer la petite affiche dont je vous parlais. On a beaucoup parlé de l'affiche des JO où la croix avait disparu sur le Dôme des Invalides, sur la cathédrale des Invalides. Et ici, c'est l'affiche de la foire à Agen cette année. La foire aura lieu du 30 mai au 2 juin. Trois croix manquent à l'appel sur cette affiche. Ce document a été réalisé à partir d'une photo aérienne. Elle a été présentée sous forme de dessin. Mais c'est quand même assez stupéfiant. Et puis, la municipalité plaide la bonne foi.
Ah. Village... Ils n'ont pas eu le temps d'effacer le drapeau.
Ces villages gourmands, ils ont été croqués.
Non, mais très sincèrement. Mais, en fait,
ce n'est plus surprenant. Moi, je vais presque au-delà de l'intention des uns des autres, en l'intention du type pour les JO. Là, il y a une tendance lourde qui emporte, ouais, qui est cette idée d'effacer le plus possible tout ce qui relève de la marque chrétienne en ce pays.
Non, mais en plus de prendre les gens pour les imbéciles, quand même.
Ah, si ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il...
Mais
il y a quelque chose où... C'est-à-dire qu'on commet, en fait, on commet l'effacement. Autrefois, on le faisait en prétendant ne pas le faire. Et là, aujourd'hui, il y a l'argument « Ah oui, c'est une erreur, en fait, c'est une bonne foi. » Et puis, la fois suivante, dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont dire « Oui, on les a effacés, mais heureusement, c'était nécessaire. Diversité et vivre ensemble. »
Incroyable. Charlotte.
La bonne foi pour effacer des croix.
Oui, mais j'allais dire.
Vous réagissez un peu tard. Mais ça, je l'accorde. Charlotte,
mais en
votre
fait,
regard.
Ce qui est quasiment comique dans le ridicule, c'est qu'à la fin, ils font quand même une affiche pour représenter la ville avec une église, parce qu'en fait, il n'y a pas trop le choix. C'est quand même ce qu'on reconnaît vraiment, une église en France, dans un village ou dans une
qui
ville.
Qui est la base d'un village français. Voilà.
Mais du coup, on efface la croix. Retrouvez-vous au milieu de ça. Donc, c'est évident, c'est l'église au milieu du village. Hein, ça a même fait une expression, quoi. Et puis, mais quand même, on efface la croix parce qu'on est nous, mais pas vraiment nous. Enfin, bon, il y a un malaise, il y a un gros malaise.
Ouais. C'est intéressant parce que Mitterrand, c'était l'affiche. Il y avait bien l'église, mais il y avait bien la croix.
Exact.
Eh ben oui.
On t'aimera.
Eh oui, beaucoup de choses ont changé depuis. Marc Menon, on va parler avec vous de la langue française. Est-ce qu'elle disparaît comme les croix ? Est-ce que la langue française est en train de disparaître sous nos pieds ? On a fêté, célébré hier, enfin, certains ont célébré, parce que plus personne n'en parle, la langue française. C'était la journée de la langue française, c'est la 5e langue la plus parlée au monde. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Commission européenne, lorsqu'on parle justement des JO ? On a l'impression là aussi que c'est une sorte de déstructuration, de destruction de la langue française, comme les croix.
Avant de vous répondre, je tiens à vous féliciter car demain, vous recevez le prix Richelieu de la langue française.
De la défense de la langue française.
Savourons tous les jours. Alors,
aux téléspectateurs.
Voilà, festival de francophonie pendant 6 mois. C'est une volonté de la présidence. Tiens, encore. Et alors, quand on lit, quel est le but ? Là, pendant 6 mois, on devrait être dans la passion de la langue française. On devrait chacun, je dirais, ouvrir les dictionnaires, se mettent à feuilleter les livres de poésie, entonner le verbe. Pourquoi ? Eh bien, le thème, c'est créer, innover, entreprendre en français. Profiter de ces 6 mois pour célébrer la francophonie. Alors là, c'est un peu plus abscon. Hein. Comme une force de transformation du monde. Bon.
de solutions pour le monde face à des défis globaux. Il faut que ce soit incarné par des figures inspirantes. Alors là, forcément, on pense à qui ? On pense à Aya
Nakamura.
Allez, courage.
On va vous aider.
Nakamura. Alors, moi, je ne suis pas ici pour savoir si cette jeune femme, elle n'est pas légitime en tant que chanteuse. Oui. Un artiste fait ce qu'il veut. Et puis, les chansons yéyé, elles n'étaient pas toujours très finaudes non plus. Oui. Mais là, on la prend pour incarner la langue française. Elle pourrait être blanche, elle pourrait être de n'importe quelle couleur. Ça n'a rien à voir avec son origine. C'est ce qu'elle transporte. Et je dis, l'artiste fait ce qu'il veut, il peut faire grain-grain, il peut même être muet, on a eu le mime Marceau, donc c'est pas ça l'important, mais incarner la langue française.
Et comme elle est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, ça dit beaucoup de choses aussi, hein, de la notion qu'on a de la langue française,
Oui, mais là, c'est quoi ? C'est éventuellement un rythme, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la langue. Alors on dit elle est francophone, moi je veux bien que ce soit francophone de dire dja-dja, de dire, did, etc. J'avais noté quelques expressions, et encore, là, ça peut s'amuser en tant qu'artiste, mais non pas en tant qu'incarnation de la langue française. Le hiatus, il est là. Mais alors, je dirais qu'elle n'est pas la première à se rendre coupable de ça. C'est la généralité, malheureusement, de nos jours. Il suffit d'avoir quelques tentatives d'incursion dans ce qui se dit ici et là. Alors, si vous allez sur les réseaux sociaux, on peut entendre MDR. Alors, MDR, ça veut dire, moi, je suis obligé de noter. Hein.
Mort de rire. On va vous aider.
Après, j'ai pas envie de connaître ça. Vous avez LOL, alors on vous sort LOL en pleine conversation. Après, ça veut dire quoi ?
Beaucoup de rire, on va faire ça.
Ah bon, d'accord, on est toujours en train de se marrer. Ben, je préfère me marrer en français. Alors, après, vous avez kiffé, vous avez enfin nombre d'expressions qui tiennent plus du borborygme ou de l'onomatopée. C'est-à-dire que la langue, où est-elle ? Mais on est de quoi, nous ? Quelle est notre identité ? C'est la langue. Sans la langue, il n'y a pas le terreau, il n'y a pas la racine, on ne peut pas croître. Et par conséquent, nous sommes en train de nous effondrer. Il suffit de prendre les livres de littérature qui connaissent un grand succès, à part Sylvain Tesson. Eh bien, pour la plupart, c'est du mièvre, c'est de la langue qui est tombée. Et la grande fantaisie du temps, c'est de prendre des mots que l'on étire dans leur sens. Et ça permet comme ça d'avoir l'illusion d'une expression cohérente. Mais elle n'existe pas. La pertinence de la pensée, elle a totalement disparu. Les professeurs n'exigent pas ça. D'ailleurs, que se passe-t-il depuis très longtemps ? Moi, ça m'a toujours énormément offusqué. Moi, j'enseignais les mathématiques, d'autres étaient avec la philosophie, le français. Et alors, quand ils avaient des élèves, ils les notaient sur une démonstration en fonction des citations. Mais ça, c'est être perroquet. C'est pas du tout pratiquer la langue, c'est pas donner le goût du mot, c'est pas donner l'ivresse, la jubilation de la pensée. Et ça passe par toutes ces petites briques qu'il faut aller collecter, qu'il faut aller butiner, avoir son cahier de vocabulaire dès le plus jeune âge. Alors que faire ? Pour faire en sorte, non pas, comme le dit la présidence, créer, innover, entreprendre en français, j'aime bien parce qu'il faut faire tout ça, et quand le président se présente sur une estrade, aussitôt qu'il y a quelques étrangers, hop, fini la langue française, je parle English. Ah, c'est fierro, ça, de parler English. Mais c'est pas récent non plus, ça vient de ma génération. Moi, j'étais là, c'était Brel, c'était Brassens, c'était Reggiani, c'était Ferrat, c'était Ferré. Oh, bah oui, mais j'étais un plouc, j'étais un pauvre type. Tout ce qui venait, c'était de l'autre côté de l'Atlantique, à le rock. Oh, le rock, on sent diable. On ne savait pas du tout ce qu'il disait, c'était un tintouin. Mais ce n'était pas grave, il fallait être branché. Et en étant français, vous ne l'étiez plus. Et c'est de tout cela que nous payons les conséquences aujourd'hui. Nous n'avons pas su garder ce qui fait l'homme, la capacité à l'expression. Ce goût qu'il donne aux gamins, le plaisir de briller devant ses copains. C'est donc la nécessité aujourd'hui de réintroduire dans les écoles, pourquoi pas tous les matins, une petite poésie à lire. Avoir également les cours de théâtre. Et puis tiens, on se fait une dictée, non pas pour dire qu'il y a un camp, que tu as fait encore 15 fautes, non. Mais simplement pour être dans cette jouissance de la subtilité de l'accord, à une époque où il n'y a plus le moindre temps. Ah non, on est avec « on va », je ne sais pas si vous avez remarqué dans les conversations, « on va, on va, on va », il n'y a plus de futur, il n'y a plus de passé. Et il y a un tintouin qui nous vient aux oreilles qui fait qu'on a l'impression d'être dans l'échange alors qu'on est dans une vague communication. Est-ce que vous voulez quand même quelque chose d'extraordinaire, nous autres les mousquetaires ici? Grâce à vous, ma chère Christine.
Moi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Ah, parce que c'est vous qui nous avez baptisé les mousquetaires.
Vrai. Et
eh bien, on essaie d'être à la hauteur, en ayant une langue brillante. Et c'est pourquoi nous pratiquons l'escrime, attention, les mousquetaires. Et quel est le seul sport qui a pour vocabulaire, seul vocabulaire, c'est l'escrime. Alors, c'est en garde, parade, on touche. Eh oui, la langue française, on passe tous à l'écrime. On y va et on se laisse emporter. C'est à la place de la boxe, Monsieur le Président, l'escrime, votre prochain sport.
Merci beaucoup, mon cher Marc. Alors, j'ai des petites palpitations parce qu'on apprend à l'instant la mort de Frédéric Mitterrand à 76 ans. Je l'apprends là par Le Figaro, l'ancien ministre de la Culture, animateur de télévision, fan de cinéma, est décédé donc à l'âge de 76 ans.
Et puis alors lui, il aimait la langue. Hein.
C'est exactement ça. C'est touchant, puisque j'ai travaillé un peu avec lui et c'est assez émouvant. En tout cas, penser à toute sa famille, on salue effectivement la carrière de cet homme de culture. Charlotte Dornelas, on passe à votre chronique. Alors, en évoquant la visite d'Emmanuel Macron, Charlotte, à Marseille, vous évoquez le rôle du ministre de la Justice. Or, Éric Dupond-Moretti a pris la parole à Marseille, notamment pour encadrer les magistrats qui avaient un discours trop défaitiste. Alors, vous savez, avant de commencer, je vais vous faire écouter une des magistrates qui a été reprise par Éric Dupond-Moretti. On écoute ce qu'elle disait devant la commission du Sénat.
Le narcotrafic touche en premier lieu la ville de Marseille. Je pense que Marseille est la seule ville de France gangrénée à ce point par le trafic de drogue, l'économie souterraine que ce trafic induit et les règlements de compte qui en découlent. Il me semble que cette ville a basculé comme aucune autre dans le narcotrafic.
Alors justement, comment comprendre cet épisode puisque elle dit le réel, ce qu'elle voit, et elle se fait remonter les bretelles par le ministre de la Justice?
Déjà, il y a un indice qui plaide pour ces magistrats, c'est que ça fait des années, on l'a dit plusieurs fois, mais que les policiers, dans une certaine mesure, les trafiquants et les habitants racontent, eux, la même histoire, exactement la même histoire. C'est-à-dire que les policiers parlent d'impuissance, déplorent une impuissance dans l'absence de suivi de leur travail. Les trafiquants, eux, exposent au grand jour leur impunité. Tout à l'heure, Guillaume nous parlait de ces trafiquants interrogés depuis leur prison. Je rappelle que les portables sont interdits en prison. Ils font des interviews depuis leur cellule pour expliquer qu'ils ont bien rigolé devant la télé. Je cite, fermez les guillemets. Donc l'impunité, elle est jusque dans leur cellule de prison. Et les habitants, eux, parlent d'abandon. Mais par ces mots et donc ces perceptions différentes en raison des situations différentes, ils racontent cette même histoire de l'emprise incroyable que le trafic de drogue a dans leur vie. Et c'est vrai à Marseille et par ailleurs, désormais, dans les autres villes de France, on parle de marseillisation. Quant à Marseille, on parle de mexicanisation. Tout ça n'est pas très encourageant pour la suite ou alors ça provoquera le réveil vital. Bon. Se sont ajoutés à ces récits-là celui des magistrats. Les magistrats, on les entend extrêmement rarement. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont un droit de réserve, ils ne s'expriment pas très directement, en tout cas pas à leur poste comme ça. Il y a des syndicats de magistrats qui s'expriment. Certains ont un discours tellement politisé. Je note d'ailleurs qu'ils ne sont jamais rappelés à l'ordre dans les mêmes termes, alors qu'ils ont un discours extrêmement politisé qui, lui, contrevient à leur droit de réserve. Et là, nous avions des magistrats. Encore une fois, vraiment, cette audition, elle est disponible. C'est possible de la regarder. Il n'y avait aucun règlement de compte politique personnel avec tel ou tel. Il y avait un exposé assez froid, c'est vrai, inquiet, d'une situation avec des magistrats qui n'ont quand même aucun intérêt à expliquer qu'ils ont du mal à faire leur travail. Et par ailleurs, Éric Dupond-Moretti a expliqué qu'il avait, lui, rencontré des magistrats qui n'étaient pas défaitistes, qui en voulaient, mais passer des heures à expliquer à ce point la difficulté de leur travail et leur inquiétude devant l'emprise du trafic de drogue, c'est précisément ne pas être défaitiste.
Et qui sont auditionnés sous serment.
Et par ailleurs, c'est ça le problème. Pardon. C'est qu'on a un exposé froid d'une situation, avec une convocation par des sénateurs auxquels ils ne peuvent pas déroger. Ils sont obligés d'y venir. Et par ailleurs, ils prêtent serment avant de parler. Donc soit, encore une fois, c'est un peu ce que disait Mathieu tout à l'heure, soit ce qu'ils disent est vrai, soit ce qu'ils disent est faux. Mais avoir un ministre qui vient nous expliquer derrière qu'ils ont tort de le dire, ça ne suffit pas. Pourquoi ont-ils tort de le dire ? J'aimerais avoir la réponse à cette question. Éric Dupond-Moretti, vous l'avez dit, s'est invité sans presse, avait-il précisé, auprès de ses magistrats. Et alors là, c'est La Provence, un journal local, qui fait parler un des participants qui, on comprend bien après la soufflante que les magistrats se sont pris, a préféré garder l'anonymat. Alors, ouvrez les guillemets, ça a été une boucherie. La réunion n'a tourné qu'autour des propos tenus devant la commission et a donné lieu à 20 minutes de lynchage public. Éric Dupond-Moretti est resté plus de 20 minutes. Donc certains ont dit, ensuite il y a eu une discussion sur justement les propositions qui ont été faites. Mais clairement, il y a 20 minutes qui ont été consacrées à, je cite, un lynchage. Alors la chancellerie a tenté de tempérer sur le ton qui avait été utilisé. Mais Éric Dupond-Moretti, en interview, a totalement assumé ce recadrage. La chancellerie assume un recadrage. Et il évoque un des, je cite, propos malheureux. Et des magistrats qui ont eu tort de dire ça, notamment sur deux points. Sur le terme de guerre que les trafiquants sont en train de gagner et qui risque de gagner. Et deuxième chose, sur la corruption latente, qui est extrêmement inquiétante. On reviendra sur la corruption, mais la seule question qui se pose en l'occurrence est de savoir est-ce que cette guerre risque d'être perdue, oui ou non. Est-ce qu'il y a des signes, c'est-à-dire que les Pays-Bas et la Belgique ont déjà basculé dans quelque chose d'extrêmement inquiétant. C'est pas loin, c'est des pays comparables, notamment dans le système et la justice qui est mise en place, et dans la manière dont le trafic s'exporte. Donc c'est pas... c'est pas lunaire de se poser la question du basculement, à quel moment ça bascule. Or, ça se fait sur un terrain de la guerre, évidemment. Par ailleurs, le gouvernement lui-même parle de guerre, et la question de la corruption est évidemment très importante. La deuxième chose, alors là, c'est le Figaro qui rapporte les propos de la réunion. Éric Dupond-Moretti donc aurait dit au magistrat, par vos propos, ouvrez les guillemets, par vos propos, vous avez fait le jeu de l'extrême droite qui les utilise. Ah. Que vais-je dire aux Français que nous avons augmenté vos moyens budgétaires de 60% pour rien ? Fermez les guillemets. Alors là, il y a une gêne encore plus grande devant un message pareil. Parce que, un, on se fiche du résultat électoral d'un constat fait sous serment par des magistrats convoqués par des sénateurs. Franchement, le résultat électoral, et je vais même plus loin, si le fait que ces magistrats sous serment disent quelque chose sans que personne nous dise c'est faux, mais ils n'auraient pas dû le dire, et que ça a pour conséquence de faire monter l'extrême droite. Quel est le message derrière ? Je ne comprends pas bien, en fait. Ça veut dire que c'est l'extrême droite qui se saisit de ces sujets-là et que donc il ne faut pas en parler parce que ça risquerait d'avoir pour résultat le choix de l'extrême droite par certains Français. C'est encore plus inquiétant que de dire réellement la situation. Et l'autre moyen de ne pas faire monter l'extrême droite pour Éric Dupond-Moretti, pour les adversaires de cette extrême droite, c'est peut-être de se saisir précisément du sujet et d'éviter d'avoir des œillères et d'être dans le déni. Et en l'occurrence, je le répète, les magistrats n'ont fait aucun commentaire politique partisan, évidemment, dans cette audition. Et par ailleurs, quand Éric Dupond-Moretti dit « qu'est-ce que je vais dire aux Français ?» Alors, les Français d'études en sondage et de sondage en études confient exactement la même inquiétude devant la manière dont la justice est rendue en France. Donc c'est une inquiétude qui est très largement partagée, et notamment dans les quartiers en question, où les gens s'inquiètent de plus en plus de l'impunité des trafiquants qui leur pourrissent la vie.
Allez, il est vrai pourtant que Marseille a été particulièrement dotée ces dernières années et que le budget de la justice a augmenté. N'est-il pas normal que le ministre le rappelle tout de suite ?
Alors, c'est parfaitement vrai. Il a donné les chiffres. Il y a des dizaines de magistrats en plus, des greffiers. Tout ça est absolument vrai. Mais les magistrats eux-mêmes ont commencé leur audition par ça, en disant « il est vrai que l'augmentation a été très forte ». Et cette question de budget et de moyens, elle est très intéressante dans la manière dont elle est abordée parce que, et c'est vrai bien plus largement que la justice, à chaque fois qu'on demande des moyens, tout le monde n'y voit que des moyens financiers ou humains. Mais il y a aussi la question de rendre correctement la justice. C'est pas simplement, et c'est en tout cas l'interrogation de ces magistrats, est-ce que nous rendons correctement la justice en appliquant le droit tel qu'il est aujourd'hui ? C'est une question qui est évidemment première dans la manière dont on conçoit précisément le droit. Et si le droit ne permet plus de rendre justice correctement aux Français, aux victimes de ces trafiquants et donc à la société tout entière, c'est une interrogation légitime. Et derrière cette interrogation, c'est aussi les moyens de rendre la justice qui sont interrogés. Les magistrats ont reconnu cette dotation qui est objectivement extraordinaire à Marseille depuis quelques années, et ils se sont précisément inquiétés du fait que ça ne suffise pas sans aborder d'autres questions, notamment celle du système et de la vision avec laquelle on rend aujourd'hui la justice. Et donc, vous pouvez ajouter tous les magistrats que vous voulez, et c'est absolument nécessaire aujourd'hui à Marseille comme partout ailleurs, il reste pourtant des questions posées par ces magistrats. La multiplication des recours, les délais impossibles à tenir, les vices et nullités qui augmentent à chaque fois que la procédure est changée, les trafics depuis les prisons, les aménagements et remises de peine qui affaiblissent la peine prononcée par des magistrats eux-mêmes. Toutes ces questions demeurent si vous multipliez par 10 le nombre de magistrats. Donc c'est aussi la question des moyens donnés à la justice pour être rendue correctement, qui interroge philosophiquement la vision que l'on a de la justice et la vision dont on rend justice, notamment sur le terrain du trafic de drogue. Et par ailleurs, toutes les questions soulevées par les magistrats, simplification de la procédure pénale, promesse d'Emmanuel Macron. Les cours d'assises spéciales, Éric Dupond-Moretti explique lui-même qu'il y est favorable sur les narcotrafiquants. Le statut du repenti, Éric Dupond-Moretti répond « on y travaille ». La prison, il parle de progrès dans les prisons et dit qu'il y a des interrogations légitimes. Mais d'habitude, on sectionne tous ces sujets. Le lundi, on parle de prison. Le mercredi, on parle de la simplification de la procédure pénale. La semaine d'après, on parle des cours d'assises spéciales. Pourquoi pas ? Mais tout ça n'a rien à voir. Le vrai problème de ces magistrats, c'est qu'ils ont pris tous ces sujets en disant « on risque de perdre la guerre » parce que tout ça dessine une manière dont nous pensons la justice qui ne fonctionne pas. C'est ça qui leur est reproché, puisque si je prends les sujets un à un, personne ne le conteste, sauf la question de la corruption. Éric Dupond-Moretti s'est énervé en disant « c'est insultant de parler de corruption, de risque de corruption latente, c'est insultant pour ceux qui travaillent ». Je note par ailleurs que les magistrats auditionnés travaillent toute la journée sur ce sujet. Eux-mêmes travaillent, donc ils s'insultent eux-mêmes, j'imagine, quand ils s'inquiètent. C'est un peu inquiétant, et là encore une fois, je repose la question. Est-ce que les cas de corruption existent-ils ou non ? Nous en avons eu 1000 exemples. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais en juillet dernier, à Cayenne, 11 policiers adjoints mis en examen. La semaine dernière, à la prison du Réau, 6 surveillants. Dans celle de Meaux, en décembre dernier, une greffière soupçonnée d'avoir délibérément commis des erreurs qui permettaient de libérer les prisonniers. On a des maires, des élus, des dockers, des nourrices, même la population. Et une note d'analyse signée par le ministère de l'Intérieur en octobre 2022 nous annonçait qu'il y avait un nombre de dossiers de corruption clôturés en augmentation de 46%. Et la procureure de Paris en 2022 parlait dans Le Monde, je la cite, « L'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels dépasse toutes les fictions. » Procureur à Paris. Donc la corruption est une inquiétude très largement partagée. Donc ce n'est pas de l'imagination. Par ailleurs, je ne vois pas très bien pourquoi les magistrats de Marseille auraient imaginé une corruption qui n'existe pas juste pour s'insulter eux-mêmes en réalité dans le travail qu'ils font. Donc si on continue dans le déni par rapport à l'inquiétude, à l'inquiétante réalité, ça ne risque pas de s'arranger.
Dans une interview sur notre chaîne Info ce matin, Éric Dupond-Moretti a tenu à accuser les consommateurs de cannabis d'avoir en clair du sang sur les mains eux aussi.
Oui, et il a raison, indiscutablement, tous ceux qui participent de ces trafics participent à ce que ce trafic génère. C'est absolument indiscutable. Simplement, cette accusation agressive devrait servir, devrait être la prévention qu'il y a dans les collèges extrêmement tôt. Comprenez que si vous commencez à tomber là-dedans, vous participez en effet des barbecues, des gamins de 13 ans qui se font tirer dessus, qui se prennent une balle dans la tête ou qui finissent grillés dans des coffres de voiture parce qu'on en est là, en l'occurrence, à Marseille. Et il y a juste une précision dans le discours d'Éric Dupond-Moretti, c'est qu'il nous explique que c'est une affaire de bobos et de bourgeois qui fument un joint le samedi soir. Je crains qu'il ait quelques décennies de retard, en l'occurrence, sur la consommation de cannabis et de drogue en général. On a une très large partie de la population qui en effet, consomme aujourd'hui de la drogue. On a 45% de la population qui a déjà fumé du cannabis, 1,3 million de consommateurs réguliers. C'est pas juste une question de bobos le samedi soir dans les beaux quartiers parisiens. Malheureusement, ça a très largement dépassé ce niveau-là. Et par ailleurs, on a remplacé la question répressive en France de la consommation par une amende, en l'occurrence qui recouvrait en plus à 60% malgré les promesses d'Emmanuel Macron qui devrait être en passe. Vous savez, il voulait payer directement sur le terrain. Et aujourd'hui, cette amende n'est que contraventionnelle. Donc clairement, la répression s'est affaiblie sur la consommation. Donc là encore, le discours est contradictoire. Donc, et on aimerait aussi que l'énervement du ministre de la Justice ne s'adresse pas seulement aux consommateurs. Et encore une fois, je partage ce qu'il a dit, mais simplement qu'elle soit au moins, que cet énervement soit au moins égal envers les magistrats, les consommateurs et les trafiquants qui tirent, qui sont capables de tirer pour tuer des gamins de 13 ans. Ce serait un minimum, me semble-t-il.
Je vous avais dit qu'elle était énervée. Merci beaucoup, Charlotte, pour votre regard. et vos précisions détaillées. Donc je rappelle qu'on l'a appris tout à l'heure que Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, est mort à 76 ans. Il a lutté pendant plusieurs mois contre un cancer agressif. Grand cinéphile, personnalité inclassable. Il avait annoncé en avril 2003 être malade sans donner plus de précisions. Et Marc Menant nous rappelait tout à l'heure que c'était un homme qui aimait beaucoup la langue française.
Oui, mais c'est ça. Il suffit de réécouter et c'est cet enflammement qui le caractérisait.
Merci beaucoup. Mathieu Bocoté, une députée suédoise a beaucoup fait réagir. Alors qu'elle était très favorable à l'accueil des réfugiés, elle déclare maintenant avoir changé d'avis. Elle tient même à s'excuser. Elle est désormais pour une politique migratoire stricte. Est-ce que c'est la voie de la raison ou de l'expérience ?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une jeune femme. Et ça, c'est Louise Medjer, elle vient d'un parti tout à fait modéré, là. On pourrait dire dans le parti, bon, en fait, le parti des modérés en Suède, qui est le centre-droit. Et tendance modérée du centre-droit. Et elle nous dit, hier, j'applaudissais l'arrivée des migrants. C'était formidable, ça transformait notre pays. C'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle constate? Elle dit, le pays, en l'espace de quelques décennies, a changé complètement de composition culturelle et démographique. Elle nous dit, on a reçu tellement d'immigration, le choc est tel que les mécanismes d'intégration ne fonctionnent plus. Elle nous dit, près de 20% de la population aujourd'hui est d'origine extra-européenne, avec ce que ça veut dire de différences culturelles et civilisationnelles. Et je dis, c'est intéressant que ce soit une jeune femme, parce que, et là je le dis avec les précautions nécessaires, mais ce sont souvent des jeunes femmes qui font l'expérience au quotidien d'une diversité moins heureuse qu'on ne le dit. Donc ce constat qui nous vient de cette députée suédoise, puis franchement, c'est tellement rare que des politiques avouent s'être gourés complètement et avoir la décence élémentaire de dire « je vous ai mis dans une situation périlleuse », eh bien, j'avoue avoir contribué à ça. Elle nous dit « je suis en faveur aujourd'hui d'une politique encore plus sévère que celle qui était proposée à l'époque et que je dénonçais ». Franchement, pour une fois que ce moment d'autocritique est autorisé, il est même célébré, bravo. Ensuite, comment on peut corriger la situation, c'est autre chose. En fait, peut-être c'est possible si on regarde en Italie.
Oui, peut-être que c'est possible si on regarde en Italie, parce que on s'est souvent moqué de l'approche de Giorgia Meloni, pas nous ici, mais on apprenait quand même hier dans Le Figaro qu'elle est bien plus efficace qu'on ne le dit, selon les derniers chiffres.
Baisse de 70% des entrées par la route de la Méditerranée centrale, c'est un terme assez technique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'abord dit « Meloni, ça ne fonctionne pas ».
C'est ça.
Comme si on était tellement heureux en certains milieux. Oui, on était soulagés. Heureusement que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on serait obligé de faire? Et là, on entendait l'extrême-centre dénoncer Mme Meloni en disant « votre politique ne fonctionne pas, nous, on est plus fiables ». Donc, autrement dit, il fallait voter pour l'extrême-centre si on voulait éviter l'immigration massive, parce que ce qu'ils appellent l'extrême-droite ou la droite nationale ne fonctionne pas. Bon, c'est bougrement tordu, mais bon. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on donne du temps au temps minimalement, je précise, au début, elle voulait faire un blocus naval pour stopper l'immigration massive, mais ses alliés européens n'étaient pas au rendez-vous. Donc, une partie de l'impuissance prêtée à Giorgia Meloni venait du fait qu'on a refusé de la soutenir au moment où elle voulait mobiliser des ressources pour bloquer l'immigration massive. Mais là, le temps passe et on constate que ça fonctionne en partie. Pourquoi? Mais c'est le fameux, quand on vous lit un peu sur la question, quand on questionne les uns les autres, les experts, c'est finalement l'accord avec la Tunisie qui commence à porter, à donner ses fruits. C'est-à-dire, globalement, on assure la défense de la frontière, entre guillemets, en Tunisie. Ce pourquoi, demain d'ailleurs, on va chercher à défendre la frontière en Égypte aussi. Donc, il y a cette idée qu'il faut assurer la défense de la frontière pour empêcher l'immigration massive de l'autre côté de la Méditerranée. D'autres doivent prendre la responsabilité de la défense de la frontière. Ce ne sont pas toujours, je le précise, des démocraties libérales, comme si les démocraties libérales elles-mêmes n'étaient pas capables d'assurer la défense de leurs frontières et qu'elles devaient déléguer cette responsabilité à d'autres. Je note qu'à l'échelle de l'histoire, si je ne me trompe pas, ça a déjà eu lieu, confier la défense de ses frontières à d'autres. Ça finit pas toujours par bien fonctionner, mais la première étape, ce qui est sérieux, ce qui est certain, c'est qu'à court terme, alors qu'on disait que c'était faux, le faux est démenti, il y a une efficacité à l'idée d'assurer, en fait, que les gens ne traversent pas. Et ça, de quelle manière l'a-t-elle fait? Avec cette alliance, donc, avec la Tunisie, demain avec l'Égypte, après-demain avec d'autres. Donc c'est intéressant de voir que finalement, la Méditerranée se défend bien, pour peu qu'on la défende au sud, quelquefois, frontière sud plutôt qu'au nord. À l'échelle de l'histoire, c'est intéressant.
Merci beaucoup à Mathieu pour cette émission. Merci à tous. Demain, c'est la Sainte Léa. Un petit coucou à toutes les Léas. Et surtout à une téléspectatrice très fidèle qui s'appelle Sista Léa, qui vient d'avoir un petit bébé qui s'appelle Noé. On l'embrasse très fort. Tout de suite, l'heure des Pro 2 avec Pascal Praud qui rend hommage à Frédéric Mitterrand.